Im Wald, eine Kulturgeschichte.
Dans la forêt, une histoire culturelle. Le podcast de l'exposition du même nom au Musée national de Zurich, à écouter dans l'exposition ou en se déplaçant. Dans cet épisode, nous prenons un bain dans la forêt.
Dans le cadre de la sylvothérapie ou des bains de forêt, c'est-à-dire lorsque nous nous rendons en forêt à titre préventif pour promouvoir notre santé, ce que nous y faisons, c'est que nous nous rendons en forêt de manière tout à fait consciente avec notre perception sensorielle.
Wie das geht im Wald mit
Marlène Gubst, sylvicultrice qui dirige différents projets forestiers et propose également des forêts intensives aux forêts, nous explique comment cela se passe. Elle répond aux questions de Christophe Keller.
Die Fragen sind von mir, von Christophe Keller.
Ce qui me fascine avant tout, c'est l'atmosphère spécifique de la forêt, avec ses différentes couleurs au fil des saisons, et aussi l'ambiance, qui est totalement différente de celle de la vie quotidienne. J'y entre et il s'en dégage une toute autre qualité temporelle. C'est quelque chose qui me fascine totalement.
Das heißt, der Wald als ein Ort des Erlebens von
Cela signifie que la forêt est un lieu où l'on vit le temps, la temporalité, l'éphémère, mais aussi une sorte de régénération.
Absolument, parce que si je regarde par exemple les forêts de Mélèze en Valais, comment leurs aiguilles se transforment en orange doré en automne, puis tombent lentement, c'est quelque chose que j'associe très fortement à l'éphémère. Aussi avec mon propre caractère éphémère, donc la forêt m'incite aussi beaucoup à réfléchir et à philosopher sur la vie.
Dieses Eintauchen, Marlène Gubst, das praktizieren ja sehr viele Schweizerinnen.
Cette immersion, de très nombreux Suisses la pratiquent, et comme bien sûr dans toute l'Europe, la forêt est un lieu d'expérience et d'immersion. Comment la forêt est-elle perçue? Y a-t-il des chiffres? Existe-t-il des enquêtes sur la manière dont la forêt est perçue?
Ja, auf jeden Fall. Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, die WSL.
Oui, absolument. L'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, le WSL, mène des enquêtes auprès de la population suisse depuis 1997, avec lesquelles il analyse précisément ce rapport spécifique de la population suisse avec la forêt. Et on y a découvert que la Suisse est championne d'Europe en ce qui concerne la durée et la fréquence des visites en forêt. Ainsi, 94% des personnes interrogées se rendent régulièrement en forêt, 50% même une fois par semaine. Ce sont des chiffres très, très importants. On constate aussi que les gens passent en moyenne 30 à 60 minutes en forêt. La satisfaction d'une visite est également très élevée. 90% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles étaient plus que satisfaites de leur séjour en forêt. Et cela montre aussi l'attachement de la population suisse à sa forêt.
Jetzt den Wald erleben in einem ästhetischen Sinn auch.
Vivre la forêt dans un sens esthétique, également comme un espace de détente, c'est une chose. Mais comment comprendre comment la forêt fonctionne? Ce qu'elle représente en termes économiques et culturels, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que les gens comprennent comment la forêt fonctionne?
Je répondrai donc à cette question par oui et par non. En principe, la science et la recherche ont apporté beaucoup de connaissances pour bien comprendre comment fonctionne la forêt. Et nous essayons bien sûr de transférer ce savoir dans la pratique quotidienne. Les sondages ont également montré que les gens sont relativement bien informés dans les grandes lignes sur les dynamiques inhérentes dans une forêt. Mais en ce qui concerne les détails, c'est évidemment un peu plus difficile. Parce que même la science ne comprend qu'une petite partie de la réalité. Si l'on s'imagine la forêt comme une toile d'araignée, comme le modèle d'un écosystème relié par de nombreux fils différents, nous ne pouvons qu'observer de tout petits fragments de cette toile d'araignée. Nous savons peut-être quels sont les effets si l'on tire sur un fil, si l'on modifie quelque chose dans la gestion ou l'intensité de l'exploitation. Mais nous ne pouvons jamais vraiment savoir l'ensemble du système complexe dans sa totalité.
Der Waldraum ist ja auch ein Ort, wo der Mensch immer eingreift. Ist denn in ihrer
L'espace forestier est aussi un lieu où l'homme intervient toujours. Dans votre perception, en tant que sylvicultrice, la forêt est-elle toujours un espace aménagé?
Also das kann ich ganz, ganz klar mit Ja beantworten, wenn man einen Blick auf die Waldgeschichte legt oder wirft und sich die Waldentwicklung anguckt, dann ist es so,
Absolument. Si l'on se penche sur l'histoire de la forêt et sur son évolution, on constate qu'il y a 8 à 10 000 ans, toute la Suisse était boisée. Là où les sites non forestiers prédominent, les rochers, les zones rocheuses par exemple, c'est-à-dire les endroits situés au-dessus de la limite de la forêt ou à plus de 2 000 mètres, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de forêt. Mais là où la forêt peut pousser, elle s'est développée et elle a boisé toute la Suisse. Et au cours de l'histoire de son exploitation, la forêt a été utilisée de manière très intensive, à tel point qu'au milieu du XIXe siècle, la surface forestière en Suisse ne s'élevait qu'à plus que de 5 à 10% de la surface. Aujourd'hui, nous avons une surface forestière d'environ 30% du territoire, et ce sont les forêts que nous voyons aujourd'hui. Elles ont été créées en grande partie à l'époque par le reboisement et ont ensuite été entretenues et exploitées. Cela signifie qu'une très grande partie a été façonnée par l'homme.
Und da hat der Wald ja auch je eine unterschiedliche.
Et là, chaque forêt a une histoire différente, je suppose, dépendant de la région.
Waldbilder spiegeln sich sehr stark in der Waldgeschichte wider. Also man kann den Wald zum Teil lesen wie ein offenes Buch, was seine Waldgeschichte angeht.
Les images de la forêt reflètent très fortement l'histoire de la forêt. On peut en partie lire la forêt comme un livre ouvert en ce qui concerne son histoire. Un exemple très simple est celui des surfaces de reboisement que l'on voit encore aujourd'hui, même après 80 à 100 ou 120 ans. On voit qu'elles ont été reboisées au fait que les arbres sont tous alignés. Cela change avec le temps. Au début, quand les forêts sont jeunes, l'alignement est très visible. Mais au fur et à mesure que les forêts vieillissent, et peut-être aussi dans les trouées qui apparaissent alors, cela s'estompe. Mais on le voit relativement bien.
Cela signifie que Marlène Goups se promène dans la forêt, en quelque sorte lit la forêt?
C'est souvent le cas. L'œil professionnel est toujours de la partie. Et c'est aussi passionnant parce qu'on voit aussi des différences régionales. La gestion des forêts de l'Emmental en est un bon exemple. C'est une forme d'exploitation à petite échelle où la forêt est exploitée arbre par arbre. Cela a pour conséquence que des forêts très structurées se sont formées dans l'Emmental, des forêts qui sont très précieuses sur le plan écologique. Et c'est bien sûr passionnant quand on se promène à travers. Et là, je reviens à l'atmosphère de la forêt. Cette forêt dégage quelque chose de différent, comme s'il y avait une autre histoire en arrière-plan.
Y a-t-il des endroits où l'on a expérimenté et où l'on continue d'expérimenter avec la forêt, où des zones définies sont utilisées en quelque sorte comme des laboratoires pour voir ce qu'il se passe avec la forêt?
Ja, das ist super, dass Sie das ansprechen. Denn genau vor den Türen von Zürich besteht seit 2000.
Oui, c'est super que vous en parliez, car juste aux portes de Zurich, il existe depuis 2019 le laboratoire forestier sur le Ungerberg. C'est une surface forestière d'environ 150 hectares, soit 200 terrains de football. Et l'on essaie justement d'établir un tel laboratoire. Cela prend bien sûr du temps, c'est assuré pour 100 ans. On peut y observer et voir des développements que l'on recherche et que l'on expérimente sur une période de 100 ans. Et là, on pose différentes questions de recherche qui portent sur la gestion forestière, sur l'intensité de la gestion forestière, sur différentes approches dans la gestion. Mais bien sûr, le changement climatique joue également un rôle. Des plantations test d'essence adaptées au climat sont donc réalisées et le tout est rendu accessible à la population.
Jetzt, was passiert, was würde passieren, Marlène Goups, wenn wir die Wälder einfach so belassen würden?
Que se passerait-il si nous laissions la forêt en l'état ou si nous ne les gérions pas du tout?
Bei uns im Fachjargon heißt das, wir überlassen den Wäldern ihre natürlichen Entwicklung.
Dans notre jargon, cela signifie que nous laissons les forêts se développer naturellement. Cela veut dire que le développement se fait sans intervention humaine. C'est bien sûr très intéressant, mais cela prend énormément de temps. En l'espace de 5 à 10 ans, on ne peut pas observer beaucoup de changements, mais les forêts que l'on laisse évoluer naturellement sont assurées pour 50 ans au minimum. On a l'espoir qu'après ces 50 ans, on puisse y ajouter encore 50 ans, une longue période. Et l'idée est que dans les forêts non gérées, deux phases de développement très importantes se produisent dans l'évolution de la forêt. La première est la phase du climax, c'est-à-dire la phase où les arbres atteignent quasiment leur âge naturel. Nous parlons ici de 300 à 6, voire 1000 ans, le temps de vie d'un arbre. Dans les forêts exploitées, l'âge moyen se situe entre 80 et 120 ans, et c'est là que nous perdons de vue une phase de développement importante, car la richesse de l'habitat des arbres augmente naturellement avec leur âge. Les arbres deviennent donc plus épais, ils ont du bois mort dans leur couronne, et ce sont autant d'espaces vitaux ou d'habitats et de niches pour des êtres vivants, des animaux et des plantes très différents qui peuvent s'y installer et contribuer à nouveau à la richesse des espèces. Et la deuxième phase que nous ne trouvons pas non plus dans nos forêts exploitées, ou très peu, c'est la phase de décomposition. C'est-à-dire, là où les arbres vieillis naturellement meurent à nouveau et se décomposent, dans les forêts naturelles, on le sait, il existe de nombreux stades de décomposition différents de ce bois mort.
Das heißt, es geht hier darum, eine Art von
Biodiversität. Cela signifie qu'il s'agit ici de rétablir une sorte de biodiversité? Une sorte de biodiversité originaire dans et par les forêts.
Exactement. Par l'évolution naturelle et par la mise à disposition de ces différentes phases d'âge et de décomposition, on réinstalle des phases importantes pour la promotion de la biodiversité en Suisse. Et c'est aussi un objectif qui est fixé dans la politique de promotion de la biodiversité de la Confédération et des cantons. L'objectif était de transformer 10% de la surface forestière en réserve, mais seuls 5% de ces 10% ce sont réellement des réserves forestières naturelles, c'est-à-dire des zones où l'on renonce à toute exploitation.
Weltweit, Malengubsch, ist ja der Wald extrême.
Dans le monde entier, la forêt est soumise à une pression extrême parce qu'elle gêne un peu les entreprises alimentaires. Qu'est-ce qui devrait changer pour qu'une forme de respect de la forêt puisse à nouveau s'installer?
Also ich denke, dass die Frage vor allem auf das unser eigenes Konsumverhalten abzielt.
Je pense que la question porte surtout sur notre propre comportement de consommation, et là on peut faire la distinction entre les produits en bois et les autres biens de consommation. Si nous regardons les produits en bois, pour parler de la Suisse, bien sûr nous aimons tous avoir notre propre table en bois dans le salon, où nous nous réjouissons lorsque nous sommes à Engadine ou que nous entrons dans les Arvenstübli respirer ce goût du bois d'Arolles. Nous avons un lien avec le bois, nous aimons les produits en bois et nous devons tout simplement nous demander d'où vient le bois. D'une part, donc, il est important que nous essayions de promouvoir davantage le bois suisse. D'autre part, si l'on regarde en Afrique ou en Amérique du Sud, les forêts tropicales ont été et sont encore défrichées pour la production de biens industriels, c'est-à-dire le maïs, le soja, l'huile de palme. Et toutes ces substances se retrouvent dans nos biens de consommation. Le maïs dans la production d'aliments pour animaux, l'huile de palme surtout dans les cosmétiques, dans les aliments, dans le chocolat. Et c'est là que je trouve essentiel d'aiguiser notre conscience. Quel genre de produits achetons-nous? Que contiennent-ils? Et quelles en sont les conséquences sur la gestion et l'exploitation des forêts?
Vous allez dans la forêt avec les gens, vous pratiquez en quelque sorte cette communication entre les gens et la forêt et essayez d'utiliser la forêt comme une source thérapeutique. Comment cela se passe-t-il?
Also der Wald stellt an sich einerseits ein ziemlich großes Gesundheitspotenzial dar.
D'une part, la forêt représente en soi un potentiel de santé assez important, ne serait-ce que par l'atmosphère spécifique qu'elle crée, par la qualité élevée de l'air que nous trouvons dans la forêt, par l'effet de refroidissement dans les jours de chaleur. Mais si nous ne considérons pas la forêt comme un décor, mais que nous la percevons avec nos sens, alors c'est autre chose, car c'est par la perception sensorielle que nous faisons quasiment l'expérience du monde, que nous le comprenons aussi mieux. Le potentiel de la forêt en matière de promotion de la santé est donc extrêmement grand et il est souvent utilisé pour réduire les maladies liées au stress ou parce que nous pouvons vraiment nous détendre grâce à l'exercice que nous faisons dans la forêt. Nous pouvons activer le système parasympathique et ralentir et calmer notre système nerveux de manière à ce que cela ait un effet positif sur différentes fonctions corporelles. Et il ne faut pas oublier que nous avons aussi une âme, un psychisme et un esprit, et que tout cela est abordé à différents niveaux et peut être intégré.
Pendant de nombreuses années, on s'en est un peu moqué de ce type de thérapie en forêt ou de bain de forêt. Mais on a découvert entre-temps que les arbres sécrètent effectivement des substances qui sont bénéfiques pour la santé. De quelles substances s'agit-il ?
Was sind denn das für Stoffe?
Also das, was Sie ansprechen, sind die Terpene.
Ce que vous évoquez, ce sont les terpènes ou les huiles essentielles qui sont présentes dans l'air de la forêt. Cependant, je dois dire qu'il n'est pas tout à fait clair si le mécanisme d'action fonctionne vraiment via ces huiles essentielles. La forêt est plus que les terpènes et les substances odorantes qu'elle émet. La forêt agit dans l'ensemble de ces arbres, de ces différentes conditions de lumière, de ces jeux de couleurs, de ces différentes structures, et tout cela agit sur nous de différentes manières et doit être mis à profit. Et dans la sylvothérapie, ou le bain de forêt, il s'agit aussi de se rappeler d'où nous venons vraiment, ou à quel point nous faisons partie d'un tout. Nous sommes actuellement à l'ère de l'anthropocentrisme où le monde entier est expliqué du point de vue de l'homme. Mais l'objectif est en fait que nous passions à une vision biocentrique du monde où nous comprenons et pouvons expliquer l'homme comme une partie du monde, comme une partie de la nature. Et que nous nous éloignions de cette vision du monde pur, centré sur l'homme.
Im Wald, eine Kulturgeschichte. In dieser Episode waren wir mit der Forstwirtin Marlen Gubst.
Dans la forêt, une histoire culturelle. Dans cet épisode, nous étions en route avec Marlen Gubst, une promenade à travers l'histoire des forêts en Suisse et ailleurs et une station de bain de forêt, avec les questions de Christophe Keller et les voix de Viosa Garbala et de Ziad Elmaï. Ce podcast peut être écouté dans l'exposition et en dehors sur Spotify, Apple Podcasts et partout où il y a de bons podcasts, ainsi que sur le site web du Musée National Suisse. Le podcast « Dans la forêt, une histoire culturelle » est une production de Podcast Lab, www.podcastlab.ch.